Oui, donc bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais vous parler donc de MOOC et de correction automatisée, puisque je me suis lancé dans un MOOC en juin dernier, et donc ceci en fait représente ce que je pense actuellement de cette coopération entre ces deux aspects. Je vais brièvement parler d'une infrastructure de correction automatisée que je développe depuis, comment dire, une dizaine d'années, et puis de l'usage en fait qu'on peut en faire au sein d'un MOOC qui est sur la programmation récursive, qui est aussi un cours que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Et puis, je parsèmerai en fait un certain nombre de points, un certain nombre de questionnements pour lesquels en fait j'ai des questions. Je ne sais pas forcément y répondre. Je dirais même que dans la grande majorité, je ne sais pas y répondre. Mais ça me semble être des points intéressants. Et puisqu'il faut faire émerger des points de coopération, je les signalerai en rouge. C'est pas très visible, mais c'est comme ça. Alors, la correction automatisée, très rapidement, c'est une boîte noire qui prend des copies en entrée, qui prend des exercices, c'est-à-dire en fait des façons de corriger les copies de manière, disons, standardisée, et qui produit des rapports de correction à la sortie. C'est tout bête, c'est simple, et c'est comme ça que ça marche depuis le début, donc à peu près depuis 2002. Alors, la première chose, comment dire, à faire, c'est d'abord d'isoler, parce que les programmes en fait qu'on traite, et donc on traite essentiellement des programmes d'informatique dans des langages variés, peuvent avoir en fait un certain nombre de défauts. Donc sans aller jusqu'à des copies, enfin des programmes qui soient volontairement malveillants de la part des étudiants, ce qui arrive rarement, mais ce qui peut arriver plus si on ouvre ça sur le monde entier. On a des programmes qui bouclent, on a des programmes qui sont en deadlock, on a des programmes. Ah, on a déjà une question, oui. Oui, tout à fait. Oui, excuse-moi. Oui, les copies, je les ai appelées copies, mais pour prendre comment dire, un vocabulaire standard, mais effectivement, je ne traite que de programmes. Et donc, on s'intéresse qu'à la correction de programmes, dûment donnés sous la forme de sources, et qui sont traités après par en gros, des batteries de tests unitaires plus ou moins variées. Donc, sans aller jusqu'à des copies malveillantes, on a des copies qui bouclent, on a des copies qui, comment dire, bouclent indéfiniment, qui sont en deadlock, etc. Et donc, tout ça fait qu'on a besoin de confiner les programmes des étudiants. Il s'avère que les exercices en fait contiennent des scripts de correction des programmes des étudiants, sont écrits par des enseignants qui sont des êtres non moins faillibles que les étudiants, et donc ils écrivent eux aussi des programmes qui bouclent, des programmes qui ne marchent pas, etc., etc. Et donc il faut confiner les programmes des enseignants qui confinent les programmes des étudiants. Et le tout en fait dans une plateforme qui se veut relativement libre, puisque les gens déposent leurs exercices et après ils obtiennent en retour, disons, une URL magique qui permet aux étudiants de soumettre leurs copies. La plateforme doit assurer une certaine disponibilité, et donc elle-même doit confiner un certain nombre d'activités de manière à pouvoir toujours répondre. Donc, la façon de confiner, en fait, comment dire, assez de standard, c'est que les copies en maître sont mises dans des files d'attente. Il y a, comment dire, un marking driver, disons, un chef d'orchestre qui va chercher les copies. Et là, vous voyez, en fait, que ce sont des machines qui ne peuvent pas être accédées à l'extérieur, ce sont elles qui vont chercher les copies, de manière à ce qu'on ne puisse pas attaquer frontalement ces machines-là. Elles vont chercher les exercices pour savoir comment corriger les copies. Ensuite, elles lancent des machines virtuelles à l'intérieur d'elles-mêmes qui, elles, ne peuvent pas sortir. Et donc là, on confine la copie de l'étudiant et le script de correction de l'enseignant. Et le tout produit un rapport de correction et bien sûr un certain nombre de données qu'on enregistre en base pour pouvoir ensuite donner des historiques, etc. Donc ça, c'est la première, je dirais, qualité qu'on doit avoir, c'est on doit isoler les programmes de manière, comment dire, très certaine. Le troisième point, et ça, c'est en fait, c'est pour préparer en fait le quatrième, c'est tout ça en fait doit pouvoir travailler avec disons, des types de serveurs relativement différents. Le stockage, par exemple, aujourd'hui, il existe des solutions de stockage sur le réseau comme S3 d'Amazon qui sont, comment dire, extrêmement intéressantes. Et donc, il faut pouvoir effectivement être capable de réutiliser des tas de choses. Et donc, l'architecture en termes plutôt de serveur fait que les apprenants aujourd'hui, comment dire, travaillent avec une première machine qui est celle qui est comment dire, spécialisée sur le cours qui est délivré. Cette machine permet ensuite de dire comment on fait pour s'authentifier. Et ceci permet d'aller chercher des données dans la base. Ensuite, on va chercher la liste des exercices qui sont offerts pour le cours, et ça, c'est stocké. Donc, les exercices ici contiennent non seulement donc les scripts de correction, mais contiennent aussi les énoncés. Puis ensuite, ils soumettent leurs copies sur des serveurs d'acquisition, les fameuses files d'attente dont je parlais. Le marking driver fait son boulot et stocke en finale le résultat sur une machine quelconque ou sur des machines quelconques. Donc, voici à peu près la répartition en termes de serveurs, et tout ça, en fait, s'adresse. Tout ça, c'est la plateforme, et tout ça s'adresse en fait avec des protocoles REST standards, ce qui rend les choses, comment dire, assez agréables du côté du cours. Enfin, le dernier point, c'est qu'on doit être on doit utiliser cet horrible néologisme de scalable, enfin de passage à l'échelle, mais je ne sais pas comment on dit échelable en français. Et là, en fait, on est obligé de commencer à dupliquer les serveurs, et ça pose des tas de problèmes qui sont plutôt des problèmes techniques. On peut avoir comment dire, plusieurs serveurs des exercices, on peut avoir plusieurs files d'attente des acquisitions, il peut y avoir plusieurs marking drivers en parallèle. S'ils corrigent plusieurs fois la même copie en parallèle, c'est pas très gênant, de toute façon tout ça vient se stocker dans le même système de stockage à la fin. Et les problèmes en fait à aujourd'hui sont les problèmes de contention sur la base de données qui est unique, c'est pas terrible, et les problèmes de contention sur le frontal du cours qui, pour l'instant, pour des cours, disons, de 100 ou 200 étudiants qui ne travaillent pas tous en même temps, est largement suffisant. Mais pour 3000 qui, lorsque on publie les exercices, vont tous se mettre à travailler dessus sur le quart d'heure qui suit, risque d'être totalement insuffisant. Donc là, il y a encore du boulot à faire. C'est le boulot du mois prochain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un exercice? Ben, en fait, c'est grosso modo quelque chose dont on veut, comme première priorité, qu'il soit extrêmement facilement déployable. Et donc, un peu comme... Pour ceux qui connaissent en Java les points WAR, qui sont les web archives, qui permettent en fait de contenir une application web tout entière, bah ici on a un tar.gz qui contient en fait tous les éléments nécessaires pour pouvoir traiter un exercice. C'est-à-dire qu'il contient l'énoncé, il contient des scripts de correction, qui permettent donc de traiter les copies, et puis il contient aussi ce que j'appelle des pseudocopies, qui sont en fait des comme on l'indique, des pseudocopies dont on sait quelle est la note qu'elles doivent obtenir parmi les scripts de correction, et ça permet de vérifier que sur la plateforme de déploiement, il y a bien tous les utilitaires dont on a besoin, que la plateforme de déploiement qui n'a pas les mêmes bibliothèques, au même niveau, aux mêmes versions, etc., en fait corrige bien les pseudocopies exactement de la manière spécifiée. Donc ça c'est plutôt, je dirais, des tests de déploiement. Les scripts, donc, comme je disais, sont confinés en temps, ils sont confinés aussi en production d'octets, de manière à pouvoir les isoler de la manière la plus, comment dire, la plus complète. Et donc aujourd'hui, il y a des exercices, comme j'ai mentionné quelques langages pour lesquels il existe des exercices, c'est Java, Bash, Octave, Scheme, OCaml. Et je vous ai mis un lien pour en savoir plus, si vous désirez en savoir plus. Alors, les scripts de correction, je ne vais pas rentrer plus maintenant dans le détail de ces choses-là. Les scripts de correction, vous pouvez les écrire dans n'importe quel langage. Le seul but, en fait, c'est d'arriver à prendre des programmes en entrée et à sortir des rapports de correction en sortie. Et donc ça, je dirais, ça dépend du génie du langage. Il y a des langages plus ou moins faciles, il y a des langages moins faciles. Par exemple, si vous prenez Bash et que vous cherchez à tester des scripts Bash, le fait de ne pas avoir de try-catch, par exemple, est un peu gênant en Bash, parce que c'est assez difficile de récupérer un certain nombre d'erreurs. Mais bon, on y arrive plus ou moins. Alors, pour le fameux cours Elis 101, qui est d'un cours d'introduction à la programmation récursive, qui est un cours pour des débutants qui n'ont jamais fait d'informatique, c'est un cours que j'ai créé en 2000 et qui se donne toujours aujourd'hui à l'UPMC, qui est à peu près entre 600 et 800 étudiants par an, donc c'est un cours, comment dire, avec une architecture, une ossature en tout cas assez importante. On a pris un langage qui est Scheme pour introduire effectivement la récursion, et c'est un langage fonctionnel, donc on demande systématiquement comme exercice de décrire des fonctions, donc on donne la spécification de la fonction et on dit écrivez-moi une fonction qui répond à telle ou telle sollicitation. Alors la façon dont on corrige en fait est exposée ici, et je vais y passer un certain temps parce que c'est quand même assez complexe. La façon standard de noter des copies, c'est simplement de passer des batteries de tests unitaires sur ces programmes-là. Le seul problème des batteries de tests unitaires, quand vous êtes en entreprise, c'est que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, c'est 0 ou 1, c'est 0 ou 20. Et 0 ou 20, ça, les étudiants ne sont pas propres, à accepter d'avoir une note 0 ou une note 20. En général, ils veulent avoir plutôt une note entre 0 et 20 et si possible au-dessus de 10. Donc, les tests unitaires sont découpés, et puis chaque test unitaire apporte un petit epsilon de points, et on fait des sigmas sur les epsilon, de manière à donner des notes plus ou moins possibles. Et donc, ce problème d'arriver, en fait, à étaler la notation, en fait, entre 0 et 20, est un problème assez complexe, parce que ça pose plein de problèmes. Alors, dans le cas de Elis 101, on demande des fonctions, et on force les étudiants à écrire forcément des fonctions et des vérifications juste derrière. Donc on dit « donnez-moi une fonction foo qui répond à telle sollicitation », les gens écrivent la fonction foo, et on leur demande d'écrire des tests pour vérifier la fonction foo. Ça, c'est pour introduire, des courants qui sont à la mode depuis une dizaine d'années, où on dit « les programmeurs aiment tester », et, où il y a aussi plein de choses sur les DevOps, etc. Donc, on force les étudiants à écrire leur propre vérification. Alors maintenant que l'on a ça, On a donc la fonction de l'étudiant et la vérification de l'étudiant. Et par ailleurs, l'enseignant a écrit exactement la même chose, mais lui est censé avoir écrit une bonne définition et des bons tests. Donc comment arriver à synthétiser une note à partir de ça? Eh bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie effectivement que le code de l'étudiant passe lui-même ses propres tests. Et donc, c'est la vérification de l'étudiant doit passer la propre fonction de l'étudiant. Donc ça, c'est standard. Mais déjà, se pose un problème. Est-ce que si quelqu'un réussit cette première condition de cohérence, est-ce qu'il gagne des points ou pas? Et si vous lui donnez des points, à ce moment-là, rien n'empêche les gens d'écrire que la fonction fou ramène toujours 1 et d'écrire des tests qui disent « je vérifie que fou ramène 1 ». Oui, une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc déjà, vous voyez que la cohérence ne doit pas dépendre du nombre de tests de l'étudiant, parce que rien ne l'empêche de faire du copier-coller pour le rajouter 17 fois. Et deuxièmement, la cohérence peut être acquise, en fait, avec une réponse qui n'a strictement rien à voir avec l'énoncé. Donc aujourd'hui, ce qu'on a pris comme condition, c'est de dire, vous devez écrire des tests, et si vous ne passez pas vos propres tests, on ne refuse de corriger plus avant votre copie. Bien. La deuxième chose, c'est que, maintenant, il faudrait vérifier, et c'est la deuxième, preuve de correction, vérifier que la fonction qui a été écrite par l'enseignant vérifie les tests de l'étudiant. Ça, c'est pour s'assurer qu'il a a priori testé quelque chose qui ressemble au problème et non pas quelque chose qui est-ce que 1 plus 1 est égal à 2 ? Oui, c'est un test qui marche. Et par ailleurs, on vérifie que les tests utilisent bien les fonctions qui ont été prises ici. Mais là, ça permet de vérifier effectivement que les tests sont appropriés au problème qui était posé. Bien sûr, après, qu'est-ce qu'on fait ? Et on prend les tests de l'enseignant et on passe la fonction de l'étudiant dedans. Pour vérifier effectivement que la fonction de l'étudiant, et ça c'est la batterie de tests unitaires, je dirais standard, où effectivement on passe les tests de l'enseignant sur la fonction de l'étudiant. Et le dernier point en fait qu'on a introduit et qui est nouveau, puisqu'il ne date que d'un an à peu près, c'est qu'on fait des tests de couverture, où on vérifie en fait les parties de code dans la fonction qui ont été activées par les tests de l'étudiant, par rapport aux parties de code de la fonction de l'étudiant qui ont été activées par les tests de l'enseignant. Et donc ça permet par différence de voir effectivement si les tests qu'a écrit l'étudiant couvrent plus ou moins les mêmes cas que les tests qui ont été écrits par l'enseignant. Et ça permet effectivement d'éliminer un certain nombre de choses, comme par exemple si vous dupliquez votre test plusieurs fois, ça fait plus de tests, mais d'un autre côté, ça n'utilise pas plus de code que ça n'utilisait auparavant. Donc voilà en gros les éléments. Et donc, voici donc maintenant les premiers questionnements, si je veux dire. Quelle pondération prend-on pour toutes ces choses-là? Parce qu'en fait, vous vous apercevez que assez vite, vous dépendez en fait du nombre de tests qu'a écrit par exemple l'enseignant, ou vous dépendez de la couverture qu'a écrit les tests de l'enseignant. Et donc aujourd'hui, on a pris des poids, mais je n'ai absolument aucune idée de savoir si ces poids sont corrects ou pas. Et dans un certain nombre de cas, j'ai des cas un peu aberrants où les gens ont écrit par exemple qu'un seul test et ont beaucoup de points, alors que s'ils avaient écrit deux tests dont le deuxième ne marche pas, ils auraient moins de points. Or, d'une certaine manière, assurer une progression qui est que plus on progresse, et d'ailleurs plus les tests sont probants, plus on devrait avoir une meilleure note, n'est pas du tout évident. Je ne connais pas la réponse aujourd'hui. Par exemple aussi, il y a des choses comme par exemple le polymorphisme. Quand vous demandez des fonctions qui sont polymorphes, vous avez peut-être envie, dans les tests de l'enseignant, de vérifier que ça marche sur des listes de nombres, que ça marche sur des listes de chaînes de caractères et sur des listes de booléens. Ça va activer exactement les mêmes parties de code dans le code de l'étudiant. Sauf que ces trois tests que vous voulez faire pour savoir s'il n'a pas, je dirais, sur-spécialisé sa propre réponse. Et ça fait en fait que si vous multipliez vos tests, vous pourriez effectivement donner une meilleure note à l'étudiant qu'elle ne mérite parce que ça n'agite pas forcément les mêmes positions de code. Le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'interprète du langage, du sous-ensemble, du dialecte scheme qui est enseigné, en fait, est totalement instrumenté, et on a aussi tout ce qu'on appelle en jargon le profiling, c'est-à-dire chaque fois, le nombre de ifs qui ont été, pris, le nombre de ifs vrais, le nombre de ifs faux, le nombre de conditionnels, le nombre d'appels récursifs, etc. Donc tout ça, en fait, on a des tonnes d'analyses en fait sur le programme et ça permettrait plus tard, quand j'aurai le temps, de commencer à regarder si par exemple telle solution est linéaire ou quadratique par rapport à tel type d'algorithmique. Et donc ça c'est des choses que, que je ferai plus tard quand j'aurai le temps. Alors, j'ai terminé avec la plateforme d'exercice et donc je passe maintenant à comment utiliser ça et quels avantages on peut en tirer dans le cadre d'un MOOC sur la programmation récursive. Alors, on utilise, comme j'ai déjà dit, Scheme. C'est un cours assez standard qui s'inspire du grand bouquin Structure and Interpretation of Computer Programs d'Abelson Sussman. On présente d'abord la récursion sur les nombres, sur les listes, sur les arbres, et on termine par un évaluateur de scheme, puisque les programmes sont des arbres, on sait parcourir des arbres, donc on sait les calculer. Alors, on a ce cours, comme je l'ai dit, il a commencé en 2000. On était une équipe d'enseignants de 5 enseignants. On a tout fait, le livre du cours, le livre des exercices, la vidéo en 2004. On a à peu près tout fait de possible. Et c'est, comment dire, l'année dernière, brusquement, je vous dis, mais dans le fond, pourquoi je n'essaie pas de le rendre encore plus éternel qu'il ne l'était, en faisant un mock. En 2002, en fait, associé à ce cours, on donnait des CD-ROM aux étudiants, donc ils pouvaient utiliser sur leur machine, dans lequel ils pouvaient installer l'environnement de développement. Et en 2002, j'avais, introduit dedans un notateur, le premier notateur que j'ai fait, qui permettait de choisir un exercice. L'étudiant écrivait son exercice et se faisait noter en appuyant sur un bouton, et on lui disait, bah, votre truc, ça vaut 12 sur 20, etc. Et c'était très pratique parce qu'il n'y avait aucune connexion à Internet, tout était contenu en fait dans le CD-ROM qu'on leur délivrait. Alors on a donné des CD-ROM en 2002, 2003, 2004, en 2005 on a commencé à mettre les images ISO sur le réseau parce que pratiquement tout le monde avait Internet, et puis en 2006 j'ai arrêté de faire ce cours, donc les jeunes l'ont repris, et puis en 2007 je crois que toute la mécanique est tombée en panne parce qu'on avait changé de version et que de skip, etc. Bien. Et donc je me suis dit, ben dans le fond c'est pas mal d'essayer de faire renaître cette chose-là. Alors, aujourd'hui, en fait, parmi tous les exercices, on avait une série d'exercices graphiques, comme par exemple dessiner un sapin. Et tous ces exercices-là, aujourd'hui, je ne sais pas les tester automatiquement. Il faudrait imaginer une forme canonique des dessins, et c'est quand même un peu compliqué, et surtout, je n'ai plus le temps dans le mois qui vient. Ça, c'était extrêmement plaisant pour les étudiants de voir les résultats de leur sapin. Donc un sapin, en gros, c'était trois triangles emboîtés avec des tailles un peu différentes et puis un petit trou en bas. Et ça, pour l'instant, je ne sais pas vraiment tester. Donc c'est pour l'avenir, comment tester des programmes qui donnent des résultats graphiques. On peut faire aussi de la revue par les pairs. Est-ce que ça, c'est vraiment, ça ressemble à un sapin? Enfin, d'un côté, culturellement, peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont jamais vu de sapin.
Et tester pixel par pixel, c'est pas une solution?
Ben non, parce que l'emplacement n'est pas forcément spécifié, et donc puis après on demande des forêts de sapins, alors les gens les mettent un peu partout. C'est... Bon, je ne sais pas faire encore, mais ça sera une réflexion pour l'année prochaine. Alors, un truc que j'ai introduit il y a 2 ans en me disant, oh ça va être un truc super qui va les inciter à travailler, nos braves étudiants, c'est d'essayer de détecter la force des étudiants, la force, l'habileté, les compétences des étudiants. Et donc, je me suis penché sur les points LO, le fameux classement sur les échecs, en me disant, mais comment ils font effectivement pour arriver à donner une force aux étudiants, alors qu'en fait, il n'y a que des parties entre deux individus à un instant donné. Alors, j'ai regardé les points LO, j'ai regardé ensuite un nouveau système qui s'appelle Glico, j'ai regardé aussi un nouveau système qui est très très intéressant, qui est fait par Microsoft, qui s'appelle TrueSkill, et tous ces systèmes-là, en fait, cherchent à apprécier la force d'un apprenant. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est essayer de me dire, mais comment on peut rapprocher le fait de faire un exercice avec un jeu dans lequel on cherche à comparer les gens. Et donc là, la solution que j'ai pour l'instant, c'est de dire qu'en fait, que si vous tentez un exercice pour la énième fois et que vous obtenez une certaine note M, alors vous battez tous les gens qui ont eu moins que M, c'est-à-dire une note moins plus basse, mais vous êtes, et vous battez aussi tous les gens qui ont eu la même note, mais avec plus d'excès, plus d'essais. Par contre, vous êtes battu inversement par tous les gens qui ont eu une meilleure note, quel que soit le nombre d'essais, et tous les gens qui ont eu une meilleure note en moins d'essais. La même note, pardon, mais en moins d'essais. Alors, on a donc l'élève parfait. C'est l'élève parfait, c'est celui qui réussit toujours du premier coup. Tout. Et puis, on a l'élève le plus nul. Alors, celui-là, il est virtuel. Le plus nul, c'est il réussit rien et il réussit tout. Il réussit rien et il aura toujours avec un coup de plus que le plus mauvais qu'on a regardé. Voilà. Donc maintenant, vous avez donc l'élève à 100%, vous avez l'élève à 0%, et vous pouvez classer en fait tout le monde par rapport à ces deux-là, et donc vous avez une espèce de pourcentage de force. Alors, c'est fait, donc je faisais un petit graphe pour dire aux étudiants, ben voilà, vous en êtes là, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout marché, ils n'en avaient rien à fiche. J'avais beau présenter les gravatars des étudiants pour dire, oui, celui-là, il est en premier, etc., ben, ça n'a pas... Ça n'a eu aucun effet. Bon, mais d'un autre côté, on a une algorithmique qui permet en fait de classer, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Bien, alors, il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ça. D'abord, c'est un calcul aujourd'hui, la force qui n'est pas incrémentielle, ce qui fait qu'en fait, on le fait une fois toutes les 2 heures ou 3 heures. Un seul chiffre le rend, c'est totalement insuffisant, parce qu'en fait, les gens qui ont fait peu d'exercices et qui les ont réussis se trouvent avec des notes bien supérieures que des gens qui ont essayé tout mais qui en ont raté un certain nombre, parce que le système a une mémoire, en fait, d'une certaine manière. Et TrueSkill, l'algorithme de Microsoft, est un peu meilleur, il est même largement meilleur, puisqu'en fait, en gros, il classe les gens avec deux paramètres. Un paramètre qu'on pourrait dire RAM-min, RAM-max, c'est-à-dire, en gros, l'endroit où se situe l'étudiant. Dans le code de Microsoft, c'est en gros, il y a la moyenne et puis l'écart type. Et donc, on dit, la personne est à peu près centrée là, mais avec tel, je dirais, tel écart de possibilités. Donc au début, si vous prenez des notes normalisées entre 0 et 1, les gens sont à 1,5 avec un écart type. Alors c'est pas un écart type, mais un écart de 1,5, ce qui veut dire qu'ils sont entre 0 et 1. Et plus ils jouent, en fait, plus ils jouent avec des gens qui ont des écarts qui sont réduits, et plus effectivement on réduit l'écart de manière à obtenir une note qui est beaucoup plus concentrée autour d'un petit rang. Donc ça, c'est des choses probablement qui sont améliorables. Et puis, en retour, il faut trouver une façon plus, je dirais, plus astucieuse, plus incitative pour les étudiants à, comment dire, à essayer d'améliorer leur score. Alors, l'usage de l'habileté, une fois qu'on l'a calculé, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, il y a deux choses qu'on peut en faire. C'est la première, c'est de proposer des binômages intéressants. Vous avez le travail en groupe, on sait que c'est quelque chose d'intéressant. Le travail en groupe, en deux, on va dire en binôme, peut se faire sur Internet avec un document partagé où ils écrivent tous les deux leur programme, où ils peuvent échanger en chat, en parlant, en disant, bah tiens, pourquoi tu fais ça, etc. Et donc on a une espèce de pair programming comme dans Extreme Programming. Donc c'est très intéressant parce qu'effectivement ça les fait réfléchir à, des façons différentes de faire les trucs. Et donc, si la technologie, en fait, de documents partagés existe, le problème, c'est de proposer des binômes intéressants. Vous n'avez pas envie que les gens se binôment, comme d'habitude, les faibles cherchant les plus forts sur lesquels se coller comme des rémoras sur un navire amiral. Et donc, en fait, la chose, là, c'est d'utiliser, en fait, les mêmes techniques que dans les jeux vidéo, où quand vous rentrez dans un jeu vidéo multijoueur, on essaye de vous proposer des joueurs qui sont à peu près de la même force que vous. Et donc l'idée en fait est la même, donc d'en proposer des binômes intéressants en disant je vais vous proposer quelqu'un qui a à peu près la même force, et donc après vous faites affaire ou pas, et vous essayez de résoudre l'exercice ou pas. Mais on peut faire aussi du duel, c'est-à-dire on peut dire, est-ce que vous avez envie de faire un exercice en même temps que quelqu'un d'autre, donc exactement en même temps, et puis le premier qui a la meilleure note ou qui réussit en moins de 5 minutes, vous pouvez faire du blitz ou bien de la correspondance, des échecs par correspondance, d'essayer effectivement de faire en sorte de jouer contre quelqu'un, et là encore, vous avez besoin de mettre quelqu'un en rapport avec quelqu'un de sa force, sinon ça n'a aucun intérêt, tous les gens qui ont fait des jeux vidéo le savent. Alors, au passage, vous pouvez aussi mettre un chat entre les deux de manière qui s'invective, comme dans les bons jeux vidéo, ah t'as vu, là je t'ai déchiré, etc. Enfin, bref. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est de faire le mythique des exercices de manière, effectivement, à essayer de donner un peu plus d'incitation aux étudiants à faire tout ça. Alors, le deuxième problème dont je voudrais parler, c'est comment essayer de faire en sorte que les étudiants s'aident eux-mêmes sans avoir... besoin de recourir à la multitude pour se faire aider. Car on a un problème dans tous ces trucs-là, qui est qu'on ne veut pas que les solutions, en fait, passent sur le réseau, parce que sinon les gens vont faire des copier-coller, et ça ne sera pas très intéressant, ça demanderait à changer les exercices, ce qui est toujours un peu compliqué. Donc, comment faire donner une certaine incitation aux apprenants, de manière à ce qu'ils progressent par eux-mêmes. Et donc, l'idée qui est en cours d'implémentation, c'est de dire, lorsqu'un apprenant obtient une note M, on lui propose en retour de dire, au fait, est-ce que vous auriez pas envie de voir quelques copies qui sont un petit peu meilleures que la vôtre, ou du moins semblables à la vôtre? On peut laisser un certain doute, de manière à ce qu'ils trouvent justement quelles sont les copies qui sont meilleures que la leur, et donc en proposant des copies, disons, entre M moins epsilon et M plus epsilon. Alors bien sûr, faut pas non plus en trop en donner, parce que sinon, vous avez un phénomène d'échelle qui consiste à copier chaque fois la meilleure réponse, et puis vous passez de 5 à 7, puis de 7 à 9, puis de 9 à, etc. Et vous arriverez finalement à 20 en copiant à chaque fois la meilleure solution. Donc faut limiter aussi le nombre total de copies qu'il pourra consulter. Et en retour, en fait, l'idée, c'est de dire, on va vous demander de classer ces copies de manière à vous dire est-ce qu'elles ont été utiles ou pas. Et ça, l'idée, effectivement, est d'essayer d'arriver à sortir de la masse les copies qui sont à un niveau donné, les bonnes copies qu'il faut montrer. Alors, on a une espèce de système, je dirais, de crowd ranking qui revient en gros à essayer de sortir les programmes. Et tout ça, en fait, peut se coupler à une taxonomie des programmes qui sont reçus pour essayer de voir quelles sont les erreurs majeures qui arrivent, de manière à pouvoir ensuite faire de meilleurs correcteurs pour l'année prochaine. Alors, les questions sont... les questionnements sur ça, en fait, sont multiples et sont plus complexes. Le premier, c'est que, d'une certaine manière, classer les copies, c'est un système de recommandation. Et les systèmes de recommandation, c'est des choses qui sont étudiées depuis déjà des dizaines d'années, et quand on regarde Netflix et autres, ou Amazon, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Là, par contre, on a un problème qui est que faire des recommandations sur des films, ça va parce qu'il y a peu de films par rapport à des millions de gens qui vont regarder les films. Et là, en fait, on a des... Alors, peut-être pas des millions de copies, mais on a des millions de copies et des milliers d'étudiants seulement. C'est-à-dire qu'on est dans la farce, dans le truc inverse. On a beaucoup plus d'échantillons à classer qu'il y a de personnes, en fait, à classer dedans. Et donc, le choix de la copie la plus appropriée à montrer à quelqu'un qui est à un certain niveau, comment dire, n'est pas du tout évident. Alors, c'est d'autant moins évident que pour le premier MOOC, on n'a encore aucune copie. Donc, il est assez difficile d'en proposer deux ou trois quand vous êtes le premier qui rentre sur le système. L'année prochaine, ça ira mieux parce qu'on en aura quelques milliers probablement pour chaque exercice. J'en avais quelques milliers dans le temps, mais malheureusement, la base de données s'est perdue en 2006 suite au crash des machines et je n'ai jamais retrouvé les sauvegardes que j'avais faites. Donc, là, il y a un problème d'amorçage. Mais par contre, comment dire, une fois qu'on aura essayé de mieux comprendre quelle est la taxonomie des programmes pour essayer de savoir sur quel plutôt, type de solution l'étudiant s'oriente, quelle note il a obtenue et quelle bonne copie dans le même, dans le même type de solution lui proposer, ça c'est effectivement des choses qui sont extrêmement intéressantes et que je ne sais pas faire pour l'instant. Donc l'idée en fait de la taxonomie, et comme je parle d'échelle à saumon, c'est en fait effectivement d'arriver à fabriquer des jeux de copies qui sont sur les différents types de solutions que les gens peuvent prendre et échelonner, c'est-à-dire de 0 à 20, de manière à pouvoir à toujours, d'une certaine manière, avoir la copie qui serait intéressante de montrer pour que les étudiants puissent progresser. Alors il y a d'autres problèmes qui sont liés au fait, est-ce qu'on note, est-ce qu'on donne des copies qui ont des meilleurs tests ou est-ce qu'on donne des copies qui ont des meilleurs codes dans la fonction ? C'est pas tout à fait évident et ça c'est des choses qu'il faudra tester plus tard pour savoir effectivement qu'est-ce qui est plus intéressant. Donner de meilleurs tests permet de dire tiens, c'est des cas auxquels je n'avais pas pensé et qui vont permettre de déclencher des erreurs que les gens vont être obligés de corriger. Donner du meilleur code, c'est aussi les aider d'une autre manière en leur disant bah voyez, il y a des gens qui font les choses un peu différemment ou qui ont pensé par exemple aux cas de base de la récursion, etc. Donc tout ça c'est des choses en fait qui, si effectivement on a du nombre, vont pouvoir être expérimentées. Alors, je ne vais pas durer 40 minutes, puisque je vais arriver aux conclusions. Alors, le déploiement était prévu le 18 février 2014. Le passage à l'échelle, de peut-être quelques milliers d'étudiants, puisque j'ai des contacts avec, Paris 7, Paris 11, et puis des universités du Sénégal. Le passage à l'échelle est un problème délicat, et là je ne parle pas du tout de la plateforme sur laquelle on met les vidéos, les documents, etc., parce que ça c'est des problèmes, je dirais, résolus. Le problème c'est effectivement sur la correction d'exercices, comment être capable d'assurer, par exemple, quand on publie un exercice, de pouvoir en corriger 30 par minute, par exemple. Aujourd'hui, la plupart des exercices, se font en 10 ou 15 secondes, donc ça veut dire qu'il faut mettre plusieurs machines en parallèle pour être capable d'avaler un pic de copies déferlant sur la chose. Le contexte politique à l'UPMC est compliqué, pour le moins, mais ça j'en parlerai pas plus. Et comme j'avais prévu éventuellement de partir le 18 février et que nous sommes déjà à 36 jours du tout, j'avoue que je commence à me poser des questions sur la date de départ exacte de cette chose-là. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis prêt à tenter d'y répondre.
Merci beaucoup.